Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 848 d'Invino. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% dédiée au vin et au spiritueux depuis 2004. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable en compagnie de Dominique Laporte, meilleur sommelier de France. Bonjour Dominique.
Bonjour Alain.
Alors ça y est, vous avez remplacé David Cobol, Philippe Forbach, le Graal est proche, non ?
Non, ils sont irremplaçables.
On les aime, on les embrasse. Notre émission de ce samedi midi ainsi que celle de demain, nous sommes en direct de Ciré, accueillis par Diane Bouchard, en présence de Dominique Tournex, le patron d'entreprise. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors Ciré, pour ceux qui seraient mondialement présents à Pékin, à Shanghai, c'est où exactement, dites-nous ?
C'est dans le Roussillon,
ouais.
Au pied des Alberts. Donc c'est vraiment ce qui fait la barrière physique entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud.
Certains disent que c'est le plus beau pays du monde.
Ah oui, c'est clair.
On est tous d'accord. Et on écoute à Perpignan d'ailleurs, Sud Radio sur 103.2. Alors on parlera tout à l'heure abondamment donc, de ce beau vignoble du Roussillon. Mais on commence par vous, Dominique Tournex. Un mot sur Diam, l'historique et l'ancrage fort dans la région.
Alors oui, effectivement, l'entreprise Diam existe depuis très longtemps. Il faut savoir qu'au départ, c'est un Catalan barcelonais qui s'installe ici à la fin des années 30, juste avant la guerre, et qui donc commence la production de bouchons en liège. Alors bien sûr, avec les forêts de chênes liège qui peuvent exister dans cette région, mais également faisant venir du liège de Catalogne. Et progressivement, l'entreprise se développe. Et au début des années 2000, l'entreprise est regroupée dans un groupe qui s'appelle Eneo.
D'accord.
Et se développe à partir de là.
Et aujourd'hui, donc, le capital de Diab Bouchage, c'est un groupe familial aussi.
Groupe familial, oui. C'est une entreprise qui est cotée en bourse.
Ouais. Et alors, l'entreprise marche bien. Vous êtes passé de combien à combien de chiffre d'affaires ? Parce que vous êtes là depuis une quinzaine d'années, Dominique, on peut le dire, sans trahir de secret d'âge, n'est-ce pas ?
C'est vrai. L'entreprise marche bien parce que c'est on a approché l'obturateur en liège d'une autre façon.
Oui.
On a trois engagements sur ce bouchon que nous fabriquons. Le premier, c'est la propreté. Assurer qu'il y ait zéro risque de déviation sensorielle liée à des molécules qui peuvent être présentes.
Est-ce que là, on va comprendre l'histoire du goût de bouchon, là, ça vient d'où là ? C'est grâce à vous qu'il n'y en a plus ?
Aussi, entre autres. Et ouais. En fait, c'est une molécule qui est produite par des bactéries et qui se développe quand il y a des temps humides et quand il y a la présence de molécules, on appelle ça des phénols, qui se transforment en trichloroanisole, donc
d'accord.
Le fameux TCA, un nom barbare, et c'est ça la molécule à l'origine du goût de bouchon. Donc ça, on s'en est débarrassé. Et le deuxième engagement qu'on a, c'est la régularité du bouchon, puisque en fait, on travaille le bouchon pour en faire un produit homogène, constant. Et donc, on voit pas de différence d'une bouteille à l'autre. Et ça fait énormément plaisir, parce qu'on n'est plus dépendant de la structure du bouchon. On l'a reconstitué, et donc on est capable d'offrir vraiment cette régularité.
Dominique Laporte, le goût de bouchon, juste pour comprendre, ça représente combien de bouteilles qui ont un goût bizarre, on va dire ? Parce que parfois, on met tout dans le bouchon, là. Hein.
Alors, la chose, c'est qu'il y a le vrai goût de bouchon sur lequel on identifie, et dès le nez, on sait qu'on ne va pas la boire parce qu'il y a un problème et on identifie cette odeur particulière.
Et en pourcentage de bouchon, de bouteilles, ça risque de concerner combien aujourd'hui ?
C'est monté à plus de 10% à une période.
Énorme,
là, maintenant, c'est bien redescendu parce que.
Et avec Diab, 0% en 2010. Hein.
Oui, zéro.
Et le troisième métier, donc, de l'entreprise ?
Le troisième engagement, c'est le choix de la recette. C'est-à-dire qu'on maîtrise le passage d'oxygène à travers le bouchon. Il faut savoir qu'en fait, il y a des vins qui consomment de l'oxygène, d'autres qui en consomment moins. Il y a des vins sensibles à l'oxygène, qui donc s'oxydent, d'autres qui sont sensibles plutôt à l'effet de réduction. Et donc, il faut trouver la bonne recette de l'obturateur pour avoir une bonne respiration du vin en bouteille lorsqu'on le garde. Mmh. Et c'est un métier nouveau qu'on a développé. On a d'ailleurs développé un véritable pôle œnologique autour de cela. Et on fait
donc
énormément
vous avez un centre de recherche.
Centre de recherche en association avec plein d'instituts, alors qu'ils soient français, italiens,
vous êtes ingénieur agro de formation. Hein.
Oui. Oui.
Et donc là, vous travaillez au niveau mondial, c'est-à-dire que
oui,
vos bouchons,
oui,
ils sont uniquement créés ici, la produit ici à Ciré, en pays catalan ?
Non, pas seulement. Nous avons trois usines, mais nous sommes dans le sud du bassin méditerranéen, donc en Espagne, au Portugal et en France. On est d'ailleurs la seule société fabricante de bouchons en Liège qui fabrique des bouchons en France. Les autres entreprises
peuvent
revenir d'ailleurs d'Espagne ou de Portugal et donc les finissent et font ce qu'on appelle le marquage et le satinage sur place. Mais la production chez nous est en partie faite en France et notamment pour le marché français et pour certains pays limitrophes.
Vous vendez combien de bouchons par an ? Je sens que
en gros, on n'est pas très loin d'un demi-milliard sur la France.
Un demi-milliard uniquement sur la France ?
Ouais,
hein.
un tout petit peu moins.
Sur combien de bouteilles vendues en France, Dominique Laporte ? À peu près, il y a quoi ? Il y a 4 milliards de bouteilles à peu près qui sont vendues en France, quoi ?
Je pense. Oui,
Dominique,
oui.
Ouais.
3-4
milliards, quoi. Donc c'est pas mal déjà.
Bon, au total, on en fait 2 milliards, un peu moins de 2 milliards et demi dans le monde, dans 66 pays. Mais nos trois gros pays, c'est bien sûr la France, l'Italie, l'Espagne, et je mettrai aussi les États-Unis et l'Argentine qui viennent juste après.
Et la partie Ciré, donc vous employez combien de personnes ? Parce que c'est une
vraie PME, c'est un peu plus de 200 personnes.
Ouais. Bon, et les auditeurs qui nous écoutent, là, pour venir investir dans le pays catalan, en dehors des bouchons, là, il faut venir ici, il y a de la main-d'œuvre, ils sont sympas, il fait beau ou pas?
Oui, oui, mais s'ils veulent investir aussi en bourse, ils peuvent acheter des actions Eneo.
Oui, elle est bien. Bon, merci en tout cas, Dominique Tournex. Dominique Laporte, alors vous, au départ, vous étiez plus cuisinier que sommelier, si j'ai bien compris.
Ouais, au tout début, mais ça, c'est à l'école hôtelière, c'était. Ouais. Dans une autre décennie.
Et vous avez bourlingué dans plein d'établissements fantastiques en France, mais aussi à l'international.
Oui, ben en fait, la vision, moi, c'était d'essayer d'apprendre et de comprendre un peu le monde du vin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on fait le tour d'une entreprise et on a besoin d'aller voir ailleurs pour comprendre autre chose. Et donc, j'ai commencé autour de Montpellier. Ensuite, je suis parti sur Paris, je suis parti en Angleterre et je suis revenu ensuite.
Vous êtes catalan au départ ?
Non, j'ai fait mes études ici à Perpignan.
Perpignan, ouais. Et vous avez fréquenté donc, l'Angleterre, c'était dans quel établissement ? Un bel établissement, non ?
Alors, j'en ai fait deux. J'ai travaillé au début au Great Eastern Hotel, qui était un des établissements du groupe Conrad avec 6 restaurants dans l'hôtel. Donc, j'étais au fine dining, c'est-à-dire le restaurant haut de gamme. Et ensuite, j'ai travaillé avec Gordon Ramsay quand il avait repris le Connaught, qui est le plus vieux palace de Londres.
Ouais, c'est pas mal quand même.
C'était pas mal.
Vous avez fréquenté aussi, j'ai vu les prémices du côté de Fontainebleau. C'est un ami, Didier Lamouche, qui m'a fait connaître cet endroit, un grand amateur de vin. Il y avait une carte de vin sublime là-bas aussi.
Tout à fait. En fait, que ce soit Dominique Maes et ensuite son sommelier, on était amis depuis très longtemps, et avec Laurent Pirot. Et. Il s'avère que moi j'étais dans le secteur et à un moment ils avaient besoin de personnel.
Allez,
et
j'avais aidé,
donc j'étais allé lui donner un coup de main pendant quelques temps. À la base c'était prévu pour quelques mois, je suis resté un peu plus d'un an.
Alors vous êtes MOF, aussi meilleur sommelier de France, ça c'est très bien,
oui.
Mais une ambition pour devenir meilleur sommelier d'Europe, voire du monde?
Alors malheureusement en 2004 j'ai fini 3e au meilleur sommelier d'Europe et j'ai pas digéré cette défaite toujours.
3e, bon c'est mieux 4e mais bon.
Bah surtout que les deux qui ont gagné depuis sont meilleurs sommeliers du monde donc ça fait un peu râler.
On va les nommer quand même.
Ouais, c'est... Donc c'était Andreas Larsson qui avait gagné cette année-là en 2004 et qui avait battu donc Paolo Basso et moi j'avais fini juste derrière.
Enfin perdre devant deux stars c'est bien. Mais oui. Vous auriez pu les battre, hein, parce qu'à la dernière épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes agacé, non? Vous êtes devenu un peu catalan, tout ça, là, non?
En fait, voilà, le sang chaud est revenu, et cette épreuve, je la maîtrisais pas, et quand on ne maîtrise pas tout à 100%, ben, on a un pétage de plomb de temps en temps. Voilà,
bon, allez, Dominique, on va se rattraper. Donc, ça veut dire que oui, pourquoi pas ambitionner de reconquérir un titre, et puis de se dire, tiens, allez, hop, je me mets en ligne
sérieusement,
droite.
Voilà. Ouais,
sérieusement.
Le
quoi.
Faire très
donc, à temps plein, ça veut dire. C'est on vrai. Zoome sur ce beau vignoble du Roussillon. Expliquez-nous, donc, la diversité. Il y a plein de terroirs différents, bercés entre le bleu de la Méditerranée, les cimes enneigées des Pyrénées. Enfin, c'est vraiment le paradis ici.
Oui, alors déjà quand on le regarde sur un plan géographique, la plupart du temps vu de Paris, c'est un vignoble qui a le même climat, qui a les mêmes caractéristiques, alors que c'est faux, on a vraiment des zones et des sous-zones à l'intérieur. Mais si on essaie de schématiser, on va dire on a 4 grandes zones, donc on a la zone de Collioure, donc on appelle la Côte Vermeille. On va ensuite avoir toute la partie des Aspres. On aura ensuite cette zone qui va sur la partie en allant vers Canet, où on va avoir plutôt des galets roulés, donc un terroir différent. Et après toute la vallée de l'Agly. Donc c'est si on schématise, en gros, on va avoir 4 zones bien distinctes, mais dans ces zones, vous allez avoir des subdivisions liées au terroir, liées à la fraîcheur, puisque quand vous allez sur l'arrière-pays vers Caramani, il y a des différences de température qui sont importantes, et on n'est plus sur du schiste, on est sur du gneiss. Le schiste, il y a différents schistes et différentes, on va dire, composantes de schiste qui vont apporter une minéralité différente. Et quand vous avez des galets roulés comme à Canet, vous êtes vraiment sur Châteauneuf-du-Pape. Mmh. Donc on a vraiment des zones qui vont avoir une incidence aussi liée à la température et les entrées maritimes, qui vont jouer donc sur la maturité totale du raisin. Et on se rend compte, quand on est vu de loin, on pense que c'est le Roussillon, c'est du soleil, donc ça va faire 15 degrés d'alcool. On a aussi des vins à 11,5, à 12 degrés, qui sont équilibrés, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et il faut arrêter de penser que la maturité est obtenue à 15% d'alcool. On peut y arriver en ayant des équilibres qui sont liés, bien sûr, au pH. Et là, c'est là où le Roussillon a une grande force, c'est d'avoir un pH relativement bas. Donc de mieux fixer les acides et la minéralité dans les vins.
Au niveau des couleurs, dans le département, on trouve toutes les couleurs. Il y a du blanc, du rouge, du rosé, du bleu.
On produit tout. et la grande particularité, c'est qu'il y a donc deux grandes familles de vins. Donc les vins dits secs ou tranquilles. Et ensuite, on va avoir les vins fortifiés. Donc tout comme les portos qui sont assez connus pour ce précepte-là. Il faut savoir que les vins de Roussillon ont été précurseurs.
Voilà, les Maurilles et Bagnoles, c'est comme des portos, mais en mieux. Quoi. C'est ça qu'on
en
dit
bien
ici,
mieux, bien sûr.
Ouais. Et de loin. Quoi.
Voilà,
et alors, donc, aujourd'hui, il y avait une tendance à l'époque peut-être de rouge. On redécouvre les rosés. Comment ça se passe la ventilation de l'offre, en tout cas du Roussillon?
Alors historiquement, on a toujours fait des vins rouges dans la plupart des régions de Méditerranée. Mais moi, je trouve que le Roussillon, la plus grande de ses forces, c'est aujourd'hui le vin blanc.
Le vin blanc. Et ça, ce sont des vins qui sont créés. Alors, ça dépend de la pâte du vigneron, je suis d'accord. Mais en général, pour être gardé ou alors pour être consommé dans l'année, comment vous voyez les choses, Dominique?
Alors, il y a différents profils en fonction du travail du vigneron. Tous les vignerons ont une gamme, généralement. On a des vins dits de soif que l'on peut consommer très facilement dans différents instants. Et après, on va avoir des vins un peu plus travaillés, avec plus de matière, que l'on va pouvoir garder de nombreuses années. Mais un vin du Roussillon, de manière générale, se garde facilement une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années, quoi.
Oui, sans aucun problème. Après, ça dépend comment
il est. Et le type de plate gastronomique, il y a une offre gastronomique qui est sympa dans le département aussi. On peut se restaurer. On a a des bons restos, comme je sais pas, le Fanal à Banyuls ou alors à Bellestad, des choses sympas aussi.
Oui, alors on a la chance d'avoir beaucoup de restaurants une étoile Michelin dans le secteur, donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis après de très belles.
Et des bons plans financiers, parce que souvent c'est pas trop cher, hein, parce qu'ils veulent la seconde là, et pof, on fait une bonne affaire.
Non, mais c'est ça, il faut aussi trier, puisque vous avez aussi beaucoup de restaurants saisonniers de par le succès de cette région, notamment en été. Donc il faut vraiment aller chez des gens sérieux qui font des produits frais. D'origine
quelques
connue.
Quelques noms, allez-y, citez les gens sérieux, après on passera aux gens pas sérieux.
Dans les saisonniers ou pas dans les saisonniers?
Les deux, mon commandant.
Bon, dans les grands classiques, moi je suis assez fan donc, de ce que fait Laurent Lemal donc, à Bellestad, avec la coopérative, pour moi c'est
une étoile. Ouais.
Vous avez aussi donc, la Galinette aussi, au Christophe Combe, travaille très bien dans Perpignan. Ça fait partie pour moi des valeurs sûres. Vous avez à Montenay aussi l'Auberge du Cellier. Qui fait partie des...
Bon, faut y aller, quoi.
Voilà, exactement.
Bon, avec un bon rapport qualité-prix à chaque fois?
Oui, il y a des bons rapports qualité-prix, notamment le Cellier, je crois qu'il est réputé pour être l'étoilé le moins cher de France, je crois.
Bon, génial, merci beaucoup Dominique. Dans un instant, retour chez Diane Bouchard, Jacéré, pour la suite de cette émission spéciale consacrée aux enjeux et grand vin du Roussillon.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à Serré en ce beau samedi midi chez Diane Bouchard pour cette émission spéciale consacrée au vin du Roussillon, avec toujours à mes côtés Dominique Tournex et Dominique Laporte. Ils n'ont pas changé depuis 10 minutes pour accueillir un duo féminin chic et choc. Elles sont superbes, Eliane Lafage et Margot Sol. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors Eliane, on commence par vous. Vous êtes propriétaire avec votre mari Jean-Marc, on salue, du domaine Lafage. Vous êtes œnologue tous les deux. Alors racontez-nous, vous avez beaucoup bourlingué, hein.
Voilà, on a beaucoup bourlingué, on a un parcours un peu atypique. Hein, donc,
Avez vinifié dans combien de pays? 3 pays différents?
On a vinifié dans 4 pays.
4 pays différents. Quoi. Racontez-nous
voilà.
Ça alors.
Et, c'était voilà nos études d'œnologie et à la suite de nos études, c'était voilà comment voilà moi je suis rentrée en œnologie, je me suis dit moi je vais voyager vraiment avec le vin, donc ça a été le premier la Californie voilà sur des stages, ensuite l'Australie, l'Afrique du Sud. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir aussi sur le Chili.
7 ans au Chili, hein.
Voilà, avec 7 vinifications au Chili. Donc, c'était juste magique. Voilà, c'était une expérience assez fabuleuse d'ouverture d'esprit, de richesse, de voir autre chose qui se passait sur des vins. D'autres cépages, d'autres terroirs,
d'autres
manières de travailler,
d'autres ouvertures d'esprit également.
Tout à fait.
Quoi.
Voilà, il faut dire que c'est vrai que voilà, c'est l'hémisphère sud, donc ça permettait en fait de faire une vinification dans l'hémisphère sud, donc tout février, mars, avril, et ensuite de revenir, de travailler donc dans une autre cave ou dans la nôtre, hein, voilà, ou de faire des vinifications. Au départ, c'était ailleurs, puis chez nous, donc août, septembre, octobre ici. Donc,
bon, ça vous conseillez à tous les jeunes qui aiment le vin d'aller voir ailleurs et de revenir enrichi par ces belles expériences.
Voilà. Complètement. Mais aujourd'hui, c'est rentré un peu dans les mœurs. C'est vrai que les œnologues diplômés, en général, ils partent, ils en profitent. Voilà. Mais au départ, on était quand même un petit
peu
précurseurs.
Alors, Lafage, racontez-nous, Eliane. Donc ça, c'est tout jeune, 20 ans.
Voilà, il y a une vingtaine
d'années. Et quelle réussite !
Bah oui, aujourd'hui, oui.
Alors, vous êtes, il y a quoi ? Au total, 160 hectares. Vous êtes tout dans un seul endroit ? Il y a plusieurs endroits ?
Alors nous, comme l'expliquait Dominique, le Roussillon, c'est une terre...
Alors lequel ? Parce qu'on en a deux aujourd'hui, hein. Tournex ou...
Dominique Laporte.
Laporte.
Voilà, qui expliquait que le Roussillon, c'est toute une richesse de terroir et de climat. Et c'est vrai qu'on a eu la particularité, en fait, de nous implanter un petit peu sur ces différents terroirs et ces différents climats et d'y adapter un peu les cépages. C'est-à-dire, voilà, on a toute une partie qui est surcannée, donc proche de la mer. On parlait des galets roulés. Et là, on a essentiellement des blancs. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie beaucoup de la fraîcheur des entrées maritimes. Et du coup, ce qu'on cherche sur un blanc, c'est la vivacité, la fraîcheur, l'arôme primaire du fruit. Et donc, du coup, on a planté beaucoup de blancs pour avoir cette fraîcheur-là. Et ensuite, donc, on a un vignoble sur les Aspres. Donc, les Aspres, c'est un vignoble qui est à 300 mètres d'altitude, tout en courbe de niveau, et qui est vraiment le dernier vignoble.
Sur les contreforts
des Pyrénées. Voilà. Et ensuite, on a une partie du vignoble qui est sur Maury, et avec le château Saint-Roch aussi. Et des schistes, vraiment autre chose, des beaux grenages, des beaux carignans.
Donc une variété, vraiment, vous confirmez, de terroirs qui est assez étonnante.
Une variété de terroirs, une variété de cépages. Et du coup, en fait, ça nous permet d'avoir un grenage des Aspres qui va donner un profil aromatique complètement différent du grenage de Canet ou des grenages de Maury. Et du coup, ça nous donne en fait toute une palette de vins, de cépages, de diversité de vins. Et ensuite, soit on assemble, soit on n'assemble pas.
Alors Eliane, votre mari est œnologue également comme vous, hein, vous travaillez ensemble. Et comment vous faites pour répartir le boulot ? C'est un jour sur deux, c'est quoi ?
Alors, on répartit, en fait, aujourd'hui, moi, je m'occupe essentiellement des blancs, des rosés et des vins doux naturels. Lui s'occupe plus des rouges. Lui s'occupe beaucoup plus du commerce. Moi, je vais plus sur le marketing, les soirées.
Et c'est une force de bosser en famille.
L'onotourisme. C'est une force. Voilà, il y a des avantages, des inconvénients, forcément.
C'était 24/24, quand même, non?
Voilà, mais aujourd'hui, donc, on a quand même, voilà, nos champs d'action qui sont séparés et qui permettent que chacun ait son espace. Mais après, c'est une force parce qu'effectivement, on est tous les deux passionnés et on s'est vraiment rejoints là-dessus. Et je pense que l'union fait la force.
Ouais, 1+1=3.
Quand on parle de vin, voilà, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui se crée et qui a permis d'en arriver là aujourd'hui.
Et le
quoi.
Style d'Eliane, alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos vins? La Eliane Touch, c'est quoi?
Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup de fraîcheur dans les vins, beaucoup d'aromatique, le côté élégant, en fait, et de toujours travailler l'équilibre qu'il va y avoir entre cette vivacité, cette trame de fraîcheur qui est un peu, je dirais, la colonne vertébrale, en fait, si on peut comparer. J'adore comparer, en fait, la description d'un vin avec une personne, parce que...
Alors, on commence par les pieds. Voilà, ah, c'est le pied quand on le boit, voilà, avec modération.
Non,
voilà.
Mais on va dire que, voilà, il y a une trame dans nos vins de fraîcheur qui est très importante et qui est aussi un garant dans la longévité des vins. Voilà, l'idée, c'est de faire un vin, mais qui dure aussi dans le temps. Tu parlais de 15 ans. Je ne dirais peut-être pas là sur tous les vins, mais en tout cas, voilà, il y a des jolis vins de garde. Mais du coup, cette fraîcheur et cette trame, voilà, et ensuite, l'équilibre entre ça et du gras. On a beaucoup de soleil, on a des cépages qui sont vieux, qui vont donner beaucoup de corps, beaucoup d'amplitude. Et donc, c'est trouver cet équilibre, voilà, avec parfois un petit peu de bois, mais très léger pour amener
la complexité. Et ça, chaque année, c'est remis en cause.
Chaque année.
On réfléchit, quoi, c'est beau,
ouais.
Ça.
Mais alors, en même temps, c'est ce qui rend passionnant. Hein,
ouais, et puis, une banane, un grand sourire, ça donne envie. Margot, alors vous, c'est une autre histoire, le domaine Sol Pairet. Hein. C'est familial depuis 5 générations. Vous ne l'avez pas créé il y a 20 ans comme Eliane. Hein.
Non, effectivement, nous, ça fait donc depuis 1913 qu'on est donc à Elne, entre Perpignan et Colluran.
Oui.
Donc on travaille en famille, je travaille avec donc mes parents et mon frère.
Et là, c'est pas trop dur, ça, parce que bon, son mari, je peux comprendre, mais ses parents quand même, non?
Non, c'est génial parce que, en fait, on a avec mon frère, on a apporté un petit peu de modernité. Et eux, avec l'expérience, avaient des années de vinification, de voilà. Donc du coup, je trouve qu'on est au contraire beaucoup plus complémentaires comme
ça. Bon, donc il y a les filles d'un côté, les garçons de l'autre, c'est ça?
C'est un peu ça.
Et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que font les garçons?
Donc les garçons s'occupent principalement, alors surtout mon frère s'occupe principalement de du vignoble. Voilà. Donc il conduit le vignoble. Donc on est à voilà, on travaille.
Donc il y a quand même 60 hectares. Hein, donc
60 hectares.
C'est déjà un très beau vignoble.
Ouais. C'est ça. Avec, ensuite, mon père, il s'occupe de la vinification. Et avec ma mère, on va plutôt partir sur la partie commercialisation, la communication, le marketing et l'événementiel au domaine. Ou l'onotourisme.
Et alors dites-nous, là, vous êtes en conversion bio, mais ici, en pays catalan, avec la Tramontane, tout le monde est bio, non? On n'a pas le choix, quoi. On est obligé d'être bio, quoi. C'est pas ça? On en parlera demain abondamment de ce sujet, d'ailleurs.
Obligé, non, mais effectivement, on a quand même un terroir qui favorise, on va dire, cette culture.
Oui.
C'est beaucoup plus c'est plus évident, on va dire. Après
et les vins, alors, dont vous produisez combien de bouteilles par an, à peu près autour de 200 000?
200 000, ouais, 200 000.
Il faut les vendre, alors comment vous faites? Vous avez le marché local, le marché national, international également. Comment c'est organisé, Margot?
Alors nous, à l'inverse d'autres, quand mes parents ont commencé, ils sont partis de la région. Ils ont voulu sortir des frontières de notre département.
Du département. Elle est belle, la vie, quand même. Hein.
Ils sont partis donc, sur le reste de la France. On s'est énormément développé donc, en Bretagne, en Alsace, sur ces régions. Et ensuite, là, maintenant, moi, c'était mon projet quand je suis revenue sur le domaine. J'ai voulu développer un petit peu plus le local. Donc, faire venir les gens au caveau, développer la restauration, les cavistes, donc on essaie de se développer.
Vous avez également les importateurs pour développer ou pas trop?
Un petit peu, mais ça reste sur, on va dire, l'Europe proche.
Proche, quoi. Et vous, Eliane, vous vendez également en France, mais également hors de nos frontières?
Oui, nous, on vend beaucoup sur l'étranger. Nous, on s'est vraiment développé au départ sur l'étranger, de par nos voyages et nos connexions. Et du coup, on vend aujourd'hui 70% export et 30% en France. Ouais. Voilà. Et beaucoup dans le département aussi.
Et alors, est-ce que le monde du vin est macho?
Oui.
Ça, c'était Margot. Eliane, elle a failli dire oui, mais pof, elle s'est fait avoir par
oui,
Margot.
Ça reste un monde d'hommes quand même. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes, mais oui, ça reste un monde assez masculin.
Dans la sommellerie, Dominique? Parce que pour l'instant, il n'y a aucune femme aussi. Meilleure sommelier du monde? Pas
non.
Une. Meilleure sommelier d'Europe, à deux mémoires, pas une non plus?
Non.
En France?
Meilleure sommelier de France, oui, il y en a eu plusieurs. Dont notamment le dernier lauréat, qui est donc Pascaline Le Pelletier, qui travaille à New York.
Qu'on salue.
Et les derniers concours de ces deux, trois dernières années, ce ne sont que des filles, que ce soit les concours de jeunes élèves ou autres sommeliers, ce ne sont que des filles.
Ça va, ça vous perturbe ça d'avoir un petit monde de machos autour de vous ou vous en fichez?
Moi, je me suis habituée quand même.
On vous avait pris pour la stagiaire au début, il y a 20 ans. Hein.
C'est ça. Je rentrais, je faisais du conseil dans des caves. Et donc, j'arrivais pour conseiller. Et puis on me dit, oh, mais la stagiaire est là. J'ai dit, non, je ne suis pas la stagiaire.
Et vous, Margot, vous en souffrez ou pas?
Au début, oui. Au début, parce que quand j'ai commencé, j'avais 21 ans.
Ah, vous êtes mis au karaté, puis maintenant, ça y est, il ferme. Non.
C'est... Au début, c'était compliqué d'asseoir le discours. Mais bon, petit à petit, ça va beaucoup mieux. Les gens comprennent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain côté un peu.
Mais après, ça intrigue aussi quand une femme vraiment décrit un verre, en parle. Il y a des gens qui sont captifs, justement, parce que c'est pas forcément habituel et qui s'attendent de pas avoir ce discours-là.
Et quand le vin est super bon, ils sont deux fois surpris, c'est ça ?
Voilà.
Méchant, là, c'est pas bien, ça. Au niveau de Leleu Tourisme, Dominique Laporte, est-ce que cette région, donc, est déjà développée ? Il y a pas mal d'initiatives. On va parler de ce qu'elles font toutes les deux dans leur domaine respectif.
Ben, malheureusement, pas vraiment. Je sais que nous, il y a quelques années, avec ma compagne, on avait travaillé là-dessus pour essayer d'inciter les vignerons à recevoir et à trouver des moyens d'action. Sauf que quand on leur proposait, tout le monde était assez fermé, assez réfractaire. Donc, du coup, on avait créé une activité et on avait inclus des vignerons à l'intérieur, justement, pour pouvoir leur montrer qu'ils avaient une potentialité de développement, de façon d'accueillir, de lier tout ça donc avec de la culture, avec du sport, avec différentes choses, puisqu'on peut les amener en vélo, à cheval, en hélicoptère, en bateau, on peut les amener par tous les moyens. Et on leur a montré ça. Donc, Margot a fait partie du projet au début, et qu'elle continue d'ailleurs, on y va en vélo. Et la chose, c'est pour que maintenant, elle se développe, et maintenant, elle lance justement de la
tous
restauration.
Tous les volets de Margot qui sont assez impressionnants. Voilà. Dominique, vous voyagez partout, quatre coins du monde, Dominique Tournex. On est en retard ici ou pas ?
Sur le no-tourisme, ouais. Ça dépend des régions. Il y en a qui sont très en retard, bien plus que le Roussillon, et d'autres au contraire, où c'est l'inverse.
Donc, le Disneyland avec les gens qui ont la banane du côté de Trump. Là.
Évidemment.
Qu'est-ce que vous faites, Margot, exactement ? Il y a tapas chez vous tous les jours, ça ?
C'est ça. On a voulu en fait faire redécouvrir les vins autrement, et la meilleure façon pour nous, en tout cas, de déguster les vins, c'est en mangeant. Donc on a choisi tous les midis de faire une petite restauration, donc à base de tapas, de produits locaux.
Il faut réserver ou on peut venir
Non, c'est sans réservation. C'est
quoi l'adresse d'ailleurs ? Vous êtes où exactement ?
Alors nous, on est à Elne, on est sur la route de Saint-Martin, dans les Aspres.
Ils n'ont pas de voisins.
Il n'y a pas de voisins, là, c'est tranquille.
Et on est seul au monde.
Il faut venir avec les chiens, tout va bien, quoi. Alors Eliane, vous faites quoi, vous ? Parce que là, j'ai noté que le 18 juillet, il y a une soirée cargolade. Qu'est-ce qu'il a, l'escargot de Tuir, je sais pas, par rapport aux autres escargots ? Pourquoi est-ce qu'il est meilleur à Tuir, l'escargot, quoi ?
Je ne sais pas.
Bon, le 1er août, vous faites un truc très catalan, au domaine Lafage, des sushis.
Voilà, c'est ça, des sushis catalans.
Et le 8 août, la charcuterie catalane.
C'est ça. Alors les jeudis, voilà, on a une formule en fait de 19 à 21h et on appelle ça un bar à vin dans mon vignoble et on fait des animations. Voilà, les gens viennent, donc il y a des thèmes.
Il faut réserver aussi.
Là, il faut réserver par contre, voilà. Et après, on fait deux soirées. Donc on a aussi le 25 juillet une superbe soirée avec un groupe de swing avec 18 musiciens. Ça va être génial.
C'est quand ça ?
Le 25 juillet.
25 juillet, c'est
un jeudi. Voilà, et puis on a des soirées le 9 août aussi. On fait des animations l'été. Ouais. Voilà, et c'est sympathique, c'est au cœur du vignoble.
Et alors ça, c'est pour faire connaître également les vins, Margot, c'est-à-dire qu'au final, au sortir de cet événement, on achète quelques petites bouteilles quand même. Ça marche bien ?
Oui, ça marche bien parce que les gens, en fait, ont passé un bon moment. Souvent, nous, on s'en est rendu compte, les gens passent presque la journée avec nous. Ils viennent, ils arrivent à 11h, ils font la visite de la cave. Ils font une petite dégustation, ils mangent, ils repartent, c'est facilement 5 ou 6 heures de l'après-midi.
Ouais. Parce que avec modération, tout ça, hein, tout ça pour un verre, ben bien sûr. Quoi, c'est... D'ailleurs, on va terminer par une question bête que je me pose depuis 53 ans, c'est-à-dire mon âge. C'est quoi un vin féminin ?
C'est une bonne
Il y a un grand blanc, là. La radio, c'est long. Alors, Margot, vous en pensez quoi, là ?
On peut parler de vin élégant, de vin fin.
Parce que pour les mecs, c'est pas élégant, quoi. C'est... Non ? Eliane, si, vous en pensez quoi, vous ?
Moi, le mot qui me venait, c'était l'élégance aussi. Voilà, la finesse, peut-être la finesse aromatique, peut-être la délicatesse.
Mais est-ce que ça existe, Dominique Laporte, un vin féminin ou pas ?
Moi, ça me fait rire parce que j'ai toujours eu cette image. Quand on parlait de vin féminin, je pensais toujours à Maïté.
Ah, Maïté, bah,
ça,
oui, donc
ça peut être, ça peut être aussi rustique. Ouais. Parce que certaines femmes aussi aiment des choses puissantes et il y a des hommes qui aiment aussi l'élégance. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment des vins féminins, à mon sens. Il va y avoir une sensibilité liée à l'œnologue ou à la personne qui vinifie.
Bon, allez, on est reparti pour 40 ans pour en parler. En tout cas, merci beaucoup, Eliane et Margot. Merci également à vous deux. Merci. Les deux Dominiques, hein, Tournex et Laporte, fin de cette émission consacrée au vin du Roussillon. Pour savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On donne rendez-vous demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et dès le localisé. Nous serons toujours acérés chez Diam Bouchage. On parlera notamment de vins bio, nature, vegan. Sont-ils meilleurs ou moins bons que les vins conventionnels ? On en débattra avec nos invités, notamment Lionel Lavaille et Hervé Bizel. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Gardez la banane, restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération.
Sud Radio Invino.